Le peintre Louis Jangal est notre invité. Ses toiles ornent les murs de nos studios.
Et c'est avec grand plaisir que je l'accueille. Bonjour Louis Jangal.
Bonjour.
Avec Frédéric Marcillet, qui est la responsable de l'Artothèque. Vous qui êtes un peintre connu et reconnu sur la place des Alpes de Haute-Provence, vous avez participé à la création de cette Artothèque, cet art en partage qui nous permet, nous, d'avoir de superbes toiles, comme les vôtres par exemple en ce moment à la radio. Racontez-nous un petit peu pourquoi vous êtes venu à rejoindre cette dynamique de Frédéric.
Tout à fait, j'ai connu Frédéric tout à fait accidentellement, comme ça, et on a parlé, et sa grande ambition était de créer quelque chose comme, à laquelle elle participait dans ses postes précédents, je pense que ça devait être du côté de Lyon, et une artothèque, pour elle, c'était un but qui était intéressant et qui m'a paru à moi aussi également intéressant. C'est-à-dire prêter des œuvres à l'artothèque qui circulent comme des livres circulent dans une bibliothèque. Et ça marche très bien. Pour un peintre, c'est très intéressant dans la mesure où on a des peintures dans les ateliers qui sont là, et comme ça, on les sort un peu, et ça plaît en général, et éventuellement, les abonnés peuvent l'acheter. Ça arrive quelquefois que des abonnés se prennent d'un amour subit pour une peinture et l'achètent.
Donc avec des satisfactions aussi, hein, effectivement, parce qu'un livre emprunté dans une bibliothèque, ça concerne une personne. Mais par contre, un tableau qui est emprunté dans une artothèque, on peut l'afficher chez soi, dans son séjour, et puis ça peut rester quelques temps. On peut s'y habituer, et effectivement, on peut acheter. Et en même temps, ça permet de changer, comme nous ici même à la radio, tous les mois, un mois et demi à peu près, on change nos murs avec les artistes de l'artothèque. On est ravis de cette modification particulière et de cette ouverture à des créateurs. On avait le graveur Thierry Fleuret qui était là jusqu'à présent. Maintenant, ce sont vos toiles qui occupent nos murs. Alors, on va parler de votre peinture, évidemment. Vous êtes venu à la peinture très jeune.
Oui, très jeune. Dans la famille, on a tous à peu près dessiné, mais comme des gamins. Et puis, je suis rentré au Beaux-Arts d'Aix à 18 ans. J'y suis resté un certain nombre d'années. Et puis, j'ai travaillé dans les musées, etc. Puis, je suis parti pour Paris, où j'ai fréquenté beaucoup d'ateliers, j'ai connu des trucs. Et j'étais un disciple d'Albert Gleizes, qui est un grand théoricien de la peinture, et qui m'a appris beaucoup. Mais lui-même se posait toujours des questions sur... C'était un homme assez angoissé, finalement, qui se posait des questions sur la peinture, comment on va déboucher sur telle chose, etc. Il a écrit de nombreux ouvrages qui font autorité dans ce domaine, d'ailleurs.
On a accroché plusieurs de vos toiles, il y en a presque une dizaine à la radio, elles peuplent bien nos murs, c'est une très bonne chose. C'est une peinture qui peut paraître répétitive, mais pas du tout, et qui est très, très diversifiée. Alors déjà par votre inspiration, il y a des nus, il y a des animaux, il y a des paysages, et puis des tableaux qui apparemment sont pas du tout figuratifs. Il y a des teintes, il y a des couleurs qui sont parfois criardes, qui sont parfois plus discrètes, plus en harmonie et entre elles facilement. Vous avez en fait une diversité aussi bien dans votre inspiration que dans votre exercice.
Je peux expliquer ça de la manière suivante, c'est-à-dire que la peinture c'est un travail de recherche. Donc les recherches, ça ne sert à rien d'inventer ce qu'il est déjà. À l'heure actuelle, il faut prendre l'héritage de nos aînés et essayer d'aller au-delà. Moi, j'ai peint longtemps en non figuratif, et puis j'estime que, pour moi du moins, à l'heure actuelle, l'art non figuratif arrive à terme. Ce n'est plus que le squelette d'un académisme nouveau, si vous voulez. Et donc, il faut aller au-delà. Donc, la peinture non figurative, pour le peintre, il a une surface à animer, mais il faut qu'il anime sa surface en équilibre, avec beaucoup de rigueur. Et c'est un travail de longue haleine. On ne réussit pas toujours, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, pour moi, du moins, on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que la peinture non figure arrive à terme. Il s'agit... non pas de revenir en arrière, mais pour moi, en quelque sorte, de réhabiliter l'objet, si vous voulez. Le réhabiliter, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'inscrire dans une logique qui comporte toute la toile et non pas ponctuellement une partie de la surface. Ça veut dire qu'il faut animer toute la surface, y compris les vides, si vous voulez, qui doivent avoir une forme, un équilibre. Et réintégrer un objet, c'est se raccrocher à la vie. Ici, l'art, à l'heure actuelle, l'art non figuratif sombre dans la décoration et il n'y a plus de vie. Et si le peintre, s'il n'y a pas de vie, ben c'est fini, il se casse la figure.
Comment est-ce que vous procédez vous-même devant une toile blanche? Vous avez une idée? Vous avez déjà construit quelque chose?
Écoutez, Maurice Denis disait, avant d'être un cheval, une femme nue ou un cheval de bataille, une peinture est avant tout un assemblage de couleurs et de formes. Je vois à peu près ces termes. Donc, ça reste toujours vrai. On a une surface plane qu'il faut animer. Pourquoi plane? Parce que Cézanne a démontré que la perspective était un échec dans la mesure où on essayait, c'était une illusion dans la mesure où on essayait de créer une troisième dimension sur une toile qui n'en a que deux. Donc, il faut, la peinture actuelle s'est affranchie de la perspective. Donc, il faut animer cette toile en hauteur, en largeur, sans la troisième dimension. Ou alors, on peut la suggérer sur des plans successifs, mais non pas essayer de tromper l'œil. Il faut tenir compte de tout ça. Et sinon, on peut toujours, bien sûr, et ça existe, des peintres qui retrouvent la perspective, etc. Mais à mes yeux, c'est repartir en arrière, et ce n'est pas la vocation de la peinture qui est une recherche de vérité. La vérité plastique, bien sûr. Il faut donc qu'elle progresse. Et pour moi, j'y réintroduis des éléments figuratifs qui permettent d'abord un pont entre le spectateur et le peintre, et d'autre part, rester dans le vrai.
Vous êtes également, je l'ai dit tout à l'heure, un artiste avec une inspiration très diversifiée. Vous avez des moyens formats, des grands formats, des petits formats, et vous prenez certainement du plaisir à peindre. Ça se ressent quand on voit votre peinture. Il y a des émotions qui naissent, on ne peut pas rester indifférent. Vous avez évidemment pratiqué la peinture depuis de nombreuses années. Quand vous avez des personnes qui parlent de vos œuvres, vous les écoutez, je suppose, avec beaucoup d'attention.
Absolument, beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, c'est un peu la mission du peintre aussi. D'ailleurs, c'est ce que je fais souvent avec l'Artothèque, c'est d'essayer de communiquer avec celui qui regarde la peinture. Donc, j'interviens dans des collèges ou éventuellement quand on me le demande, etc. Et là, je rencontre des gens avec qui on peut discuter, expliquer les choses, comment on les voit, etc.
Et
c'est
trouvez,
un aspect intéressant.
Vous trouvez les jeunes curieux sur l'acte de création?
Tout à fait, tout à fait.
Ah, c'est bien d'entendre ça de temps en temps, ça fait du bien
tout
de dire,
fait.
Tiens,
et
faites confiance à notre jeunesse.
Et puis, pour moi, c'est aussi enrichissant que pour eux, je pense. Je prends beaucoup de plaisir à ça.
Vous aviez vous-même, quand vous étiez collégien ou lycéen, c'est-à-dire hier ou avant-hier, vous aviez croisé des peintres dans votre enfance ou des plasticiens?
J'avais un grand-oncle qui était prix de Rome, mais je ne l'ai même pas connu.
Quel dommage. Mais vous avez vu ses œuvres, par contre.
Oui, bien sûr.
Donc ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien.
Mais c'est vrai que c'est très intéressant de discuter avec des jeunes. Les jeunes comme les plus âgés, bien sûr, ça, c'est toujours intéressant. Et moi, j'aime bien toujours mettre une espèce de pont entre le spectateur et moi, si vous voulez, un élément figuratif qui permet de rentrer dans l'œuvre, si vous voulez. Et ça, c'est très intéressant.
On va rentrer au cœur de l'œuvre. Quels sont les matériaux que vous utilisez, Louis-Jean?
Les matériaux que j'utilise, j'utilise toutes sortes de matériaux, c'est-à-dire, puisque je fais moi-même mes châssis, etc., je prépare mes toiles et tout, j'utilise donc tout un tas de... Et bon, je construis la toile de A à Z, si vous voulez, hein, du moment où je coupe un bout de bois pour faire un châssis jusqu'à ce que je mette ma signature sur une peinture.
Et avec donc des produits que vous achetez dans le commerce,
oui,
qui sont classiques.
Oui, classiques, des produits classiques. Hein. C'est des produits, ce qu'on appelle le gesso, c'est-à-dire en dessous, ou bien la colle, la peau de lapin, là, c'est colle de menuisier d'autrefois. Quoi. C'est pour entrecoller les toiles, c'est toujours valable et c'est très bien.
Vous exposez actuellement dans une radio locale, donc déjà ça c'est assez particulier, on en est ravis, vous vous en doutez. Moi j'ai une tendresse particulière pour la toile qui est à l'entrée de nos studios avec cette femme dénudée avec une mandoline à la main qui fait penser un peu à du cubisme, à quelque chose d'un peu différent, avec des couleurs qui sont plutôt criardes, importantes, et c'est un grand format en plus. Comment vous trouvez votre exposition dans nos studios ?
Ah, vous avez des murs qui s'y prêtent bien. D'abord, ils sont blancs. Ils sont
pas tous, hein, vous avez remarqué.
Oui, j'ai remarqué, mais pas tous. Mais bon, c'est vrai que c'est du mur blanc, c'est le mieux. On ne peut pas trouver mieux à ce point de vue-là. Donc c'est vrai que la pièce à l'entrée est tout à fait prévue, en quelque sorte, pour mettre des toiles sur les murs.
Donc, chers amis auditeurs, si vous voulez venir nous rendre visite, vous serez accueillis par une femme dénudée à la mandoline et que l'on doit à Louis Jangal, et vous serez un peu surpris. Et je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui seront intéressés et qui seront fascinés par ce tableau et puis par les autres, je l'espère. Vous avez des projets, Louis Jean, sur des expositions prochaines, peut-être ?
Écoutez, je cherchais à exposer beaucoup autrefois. Mais à l'heure actuelle, je ne cherche pas trop les expositions. J'ai des propositions, mais j'expose pas trop parce que ça me mobilise trop. Je préfère exposer pour des œuvres caritatives plutôt que dans une galerie, etc.
Et évidemment, au sein de l'Artothèque, cette association magnifique, L'Art en Partage, qui est à Volx, votre village, et qu'on salue d'ailleurs, puisqu'on a une convention avec l'Artothèque pour favoriser l'expression des artistes de l'Artothèque. Il y a une trentaine d'artistes, c'est ça,
oui, à peu près. Oui.
Qui sont adhérents de l'Artothèque et des talents très divers, et en même temps qui sont vraiment des talents à valoriser et à vérifier de vous-même. Merci beaucoup, Louis-Jean, d'avoir été mon invité. Et puis, continuez à peindre. Je suppose que ça occupe vos journées, la peinture.
Ah oui, bien
toujours.
Sûr. Oui, mais c'est une occupation à plein temps. Il y a des jours où je ne peins pas, bien sûr, mais j'essaie de peindre un peu tous les jours.
En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir pour parler de cette passion et de vos peintures. Merci beaucoup. À très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin du journal. Merci aussi à Alexia pour la régie. Demain, nous aurons un reportage sur l'arrivée du très haut débit à Simiane-la-Rotonde. Et puis, nous ferons la connaissance avec une interview du nouveau sous-préfet de Castellane, Christophe Dupont.